Grande Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage. Und femme. C'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, nous nous retrouvons à Ferney. Aujourd'hui, je vous propose la re-rencontre, si je puis dire, avec une femme exceptionnelle. C'est Lucie Aubrac. Je l'avais rencontrée le 19 mars passé, alors qu'elle était venue à Genève parler à des collégiens et puis, bien sûr, répondre à toutes leurs questions concernant la résistance. Elle venait parler en particulier de la résistance et des femmes et évoquer peut-être aussi le film qui, à ce moment-là, passait encore dans les salles de cinéma. Je pense que c'est une rencontre exceptionnelle et je me permets de vous la reproposer aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez entendre notre émission à 23h le mercredi soir. Vous nous retrouvez le vendredi matin de 11h à 12h30. C'est tous les mercredis. Nous sommes en direct le mercredi de 17h à 18h30. Et nous comptons aussi sur votre appui, par exemple en achetant une carte d'auditeur ou d'auditrice, en téléphonant au 4 50 40 51 41 059 depuis la Suisse. Aubrac, Lucie Aubrac, cette femme résistante, engagée dans la résistance et pendant l'occupation allemande dans la région de Lyon principalement. Vous le savez sûrement parce que vous l'avez vu sur tous vos écrans, toutes vos radios, entendu sur toutes vos radios. C'est difficile d'échapper aux promotions publicitaires d'un film qui vient de sortir. Mais effectivement, Lucie Aubrac est le personnage principal d'un film réalisé par Claude Berry qui est sorti sur les écrans de Genève et de France voisine. Alors, quel rapport entre le film réalisé par Claude Aubry et puis les faits réels, l'engagement réel de Lucie Aubrac? Eh bien, je vous laisserai à vous juger, mais peut-être pour donner beaucoup d'eau au moulin du personnage de Lucie Aubrac, eh bien, il sera plus important, je crois, de l'entendre, elle, dans une brève rencontre qu'elle m'a donnée sur les marches d'une église à Carouge, après avoir participé tout le matin à une conférence et un débat avec des jeunes dans un collège à Genève. Et puis aussi un bout, un long bout, parce que je crois que c'est intéressant, de la conférence qu'elle a donnée à ces jeunes de 4e année du collège de Stal, donc des jeunes de 18 ans, sur le thème « Les femmes et la résistance », parce que c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Alors voilà ce que nous allons partager aujourd'hui ensemble, la rencontre avec cette femme merveilleuse. Je veux tout de suite remercier les femmes de la librairie L'Inédite, que ce soit Annette, Anne-Christine, Anne-Laurence, qui à elles trois m'ont aidé à rencontrer Lucie Aubrac. Lucie Aubrac qui était là, invitée par les femmes de la librairie de L'Inédite lundi soir pour signer le bouquin qu'elle a écrit. Et puis aussi m'a essayé d'arranger tant bien que mal, si possible, les rencontres avec elle. Elle était très occupée. Elle était accueillie d'abord le lundi dans un cycle d'orientation, celui de Bois-Caran, où des jeunes de 15 ans lui posaient aussi des questions. Elle faisait une conférence et puis donc le mardi matin, la conférence des jeunes collégiens de 4e année, année de Mathieu, sur le thème « Les femmes et la résistance ». Alors, mettons-nous un tout petit peu dans l'atmosphère des sons, des chants de femmes, chansons de femmes. Et je vous propose tout de suite Edith Piaf qui, au lendemain de la guerre, puisque c'est en 1946, elle chantait « Les trois cloches ».
Village au fond de la vallée,
Cognoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, qu'il se nomme, il est joufflu, tendre et
défend l'école. Dites au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection, tendresse, amour.
Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, qu'avant les mois le Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme un fleur de palmier, devant Dieu.
Edith Piaf dans Onde Femme, Remue Ménage, Radio Zone 93.8. C'est tous les mercredis 17h-18h30. Vous pouvez nous retrouver le mercredi soir à 23h jusqu'à minuit 30 et le jeudi matin de 11h à 12h30. Nous vous rappelons que bien sûr, vous pouvez nous appeler quand nous sommes en direct, c'est-à-dire 17h-18h30 au 059. Si vous appelez depuis la Genève voisine, 059, sinon 4 50 40 51 41, je répète 059 pour la Genève voisine, 4 50 40 51 41. Vous pouvez nous soutenir en nous achetant une carte d'auditrice ou d'auditeur au prix de 30 francs suisses, 120 francs français. Et puis, vous pouvez surtout venir renforcer les rangs de ces femmes qui prennent la parole au micro pour nous aider à rencontrer d'autres femmes, pour nous faire partager des préoccupations, des discussions, des débats, nous faire découvrir de la musique, des livres qu'elles ont lus. Bref, tenir l'antenne, un espace radiophonique réservé aux femmes, c'est sur Radio Zone. C'est Onde Femme, c'est tous les mercredis. Ça commence à 17h et ça dure jusqu'à 20h en direct avec à 18h30 les informels de Radio Pleine Lune et à 19h les coups de cœur sur les spectacles et autres activités artistiques dans la région franco-genevoise avec Marjolaine. Alors je vous le disais aujourd'hui, eh bien rencontre fantastique avec une femme fantastique. Une femme fantastique que l'on a mis tout à coup comme ça sur l'avant-scène de la vie de tous les jours, parce qu'un film est sorti, un film qui évoque, comme il dit, une histoire d'amour sous fond d'occupation. C'est le film de Claude Berry, Lucie Aubrac, sorti récemment sur les écrans. Mais Lucie Aubrac, c'est d'abord une femme, c'est une épouse, c'est une mère à l'époque de l'occupation. Donc nous sommes à la presque vers la fin de la guerre, puisque c'est février 43 jusqu'à la même époque en 44. Et donc, elle a à ce moment-là un petit garçon qui a 2 ans. Elle sait qu'elle est enceinte aussi. Et puis, elle est résistante avec toutes ces fonctions-là. Et il faut mener de front toutes ces histoires, évidemment. Et c'est le cas de bien d'autres femmes qui ont aussi choisi de s'engager dans ce mouvement de résistance à l'occupant contre la limitation des libertés, contre les injustices, contre le fascisme, contre le racisme. Des femmes qui ont des idées politiques bien arrêtées, qui ont un engagement par tout ce à quoi elles croient. Et puis, elles ont différentes origines sociales et ça les impliquera peut-être de façon différente dans ce mouvement. C'est ce qu'entre autres va nous expliquer Lucie Aubrac. Je le répète, Lucie Aubrac, que j'ai rencontrée sur les marches d'une église à Carouge. Elle venait de déjeuner avec les enseignants qu'il avait accueillis au collège de Stal, où des jeunes de 4e année de Mathieu l'écoutaient parler des femmes dans la résistance ou des femmes et la résistance. Et elle avait trouvé important d'accorder un petit moment à une femme parce que, disait-elle, non mais une radio des femmes quand même, c'est important. Alors que même que Anne-Laurence, qui la chaperonnait depuis le début de son arrivée à Genève, essayait d'éviter encore cet ultime rendez-vous. Lucie Aubrac a aujourd'hui 84 ans, elle a malheureusement des graves problèmes de vue. Et évidemment, avoir un emploi du temps aussi chargé que le sien, c'est pas si évident que ça. Mais elle est d'une énergie folle, elle est d'un engagement incroyable, d'une présence incroyable. Qu'elle soit assise avec vous sur les marches d'une église avec la circulation autour, le soleil qui cogne, c'était encore le printemps, c'était pas encore la neige. Et puis, ou bien qu'elle soit avec des jeunes à qui elle parle avec une énergie du diable, vous le verrez aussi, puisque nous allons pouvoir entendre cette conférence qu'elle a donnée aux collégiens de Stal sur le thème « Les femmes et la résistance ». Et puis, elle était là aussi à la librairie L'Inédite lundi soir et elle signe inlassablement. Il y a une queue devant la librairie des femmes L'Inédite. On est sur le trottoir, on boit des verres parce que les femmes de L'Inédite ont fait ça très, très bien. Et tout le monde est là, hommes et femmes d'ailleurs, à vouloir échanger quelques mots avec elle. Et elle est disponible pour tout le monde. Et quand la queue sera enfin épuisée, eh bien, elle ira boire un verre, boire son petit whisky, comme elle dit. Alors voilà, on la retrouve donc à Carouge, bien évidemment. Pour discuter avec elle des femmes, naturellement. Lucie Aubrac. Lucie Aubrac, vous étiez ce matin avec des jeunes du collège qui ont entre 16 et 18 ans et vous leur parliez justement de la place des femmes dans la résistance. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur quand vous évoquez la résistance, quand vous voulez que les jeunes discutent autour de ce que c'est que résister dans un moment grave comme celui de l'occupation allemande en France, quand vous avez vous-même vécu ça.
Oui, parce que les femmes dans la résistance, c'est un nouvel aspect d'une guerre. Les guerres traditionnelles, les hommes font la guerre et les femmes gardent le foyer et les enfants. Et tout d'un coup, les femmes se sont trouvées engagées dans une nouvelle forme de guerre qu'on a voulu appeler résistante, mais qui ont été pour elles la découverte d'une société nouvelle, d'un mélange de sociétés. Des femmes de milieux sociaux différents se sont trouvées réunies dans les mêmes difficultés matérielles, dans les mêmes approches des inégalités, de l'injustice vis-à-vis d'autres gens. Et elles se sont trouvées ensuite réunies aussi dans des milieux sociaux très différents, pas simplement sur le plan de la fortune ou de la place dans la société, mais dans leur formation intellectuelle et culturelle. Et elles se sont toutes arrivées au même résultat, qu'il y a des choses qui sont inacceptables et qu'il faut refuser. Et partant de ce refus, elles n'ont pas eu conscience, elles, qu'elles faisaient une résistance à la façon des hommes pour libérer un pays, mais qu'elles faisaient plutôt des actions d'entraide, de solidarité vis-à-vis de ceux qui étaient considérés comme des êtres inférieurs ou comme des ennemis parce qu'ils avaient une pensée différente du fascisme, si vous voulez.
Dans ce cadre-là, alors, Lucie Aubrac, est-ce qu'elles ont dû trouver une place particulière? Est-ce que les hommes étaient prêts à accepter qu'elles s'installent? Enfin, référons-nous à ce que vous avez vécu, ce serait plus intéressant dans ce sens-là. Vous aviez un statut un peu particulier, femme, et puis, on le dit, un des rares couples, en tant que couple, à être engagé dans la résistance.
Oui, ma situation, premièrement, j'étais universitaire. Deuxièmement, avec un grade élevé dans l'université. Si bien que il n'y avait pas pour moi de relations conflictuelles avec des hommes, puisque j'appartenais aux mêmes universités, au même cadre social, si vous voulez.
Donc le statut social était suffisamment important pour qu'on vous accepte.
Pour que pas pour qu'on m'accepte, pour que éventuellement je donne mon avis et que je fasse partie d'une organisation qui démarre. Je n'avais pas de conflit de sexe, si vous voulez. J'étais pas une femme parmi des hommes, j'étais une universitaire, une conscience politique qui réfléchissait comme les autres et qui s'engageait comme les autres. Maintenant, je pense que pendant la guerre, les hommes n'ont pas eu vis-à-vis des femmes une réticence telle que vous pouvez la définir vous maintenant. Parce que nos conflits n'étaient pas d'ordre ni économique, ni de priorité dans une société. Les conflits étaient des conflits généraux contre l'inégalité entre les citoyens et contre le manque de liberté. Si bien que c'était les hommes et les femmes étaient engagés et concernés de la même manière, si bien qu'il n'y avait pas de rivalité possible. Il ne s'agissait pas d'être payé pareil qu'un homme ou d'avoir une même responsabilité qu'un homme. Il s'agissait d'être utilisé à l'endroit où on était le plus efficace pour lutter contre l'arbitraire. Et ce qui fait que pendant l'occupation, j'ai jamais entendu de camarades hommes dire « encore une bonne femme ». Ça n'existait pas. Au contraire, on disait « enfin, il y a une femme qui s'est tapée à la machine ». Parce que c'était l'utilisation d'une compétence. Et puis, enfin, il y a une femme qui accepte d'aller laver le linge sale de quelqu'un qui est en prison et de lui rapporter du linge propre. Vous voyez, on était sur des longueurs d'onde différentes. Et alors, si une femme savait écrire un article, ben, elle l'écrivait. Une femme avait aussi des possibilités que les hommes n'avaient pas, telles que les liaisons. Pendant très longtemps, ni la police française ni la police allemande n'ont envisagé ni compris que les femmes étaient des agents de liaison et de transport de renseignements fabuleux et sans risque.
On sait entre autres qu'une des façons que vous avez utilisées pour faire sortir votre mari qui était emprisonné par les Allemands, vous avez justement utilisé ce qui serait l'attrait spécifique d'une femme au sens classique du terme, la séduction de la jeunesse. Pour vous, vous sentiez qu'il y avait cette possibilité-là et il fallait l'utiliser à outrance, ma foi, puisque ça pouvait être utile.
Les femmes ont usé d'arguments qui étaient les leurs propres. Les leurs propres aussi. Par exemple, je pense à quand les Allemands faisaient une rafle dans la rue, dans les rues où habitaient les Juifs, dans le 4e arrondissement de Paris, et ramassaient éventuellement une femme avec ses enfants. Une étrangère, une femme française, donc pas juive, et je l'appelle étrangère, je ne sais pas pourquoi, en lui donnant un sens beaucoup plus large, qui passe, pouvait dire à cette femme, mais où allez-vous? Ben, je veux un contrôle d'identité, laissez-moi vos deux fillettes. Et aucun flic ne s'y opposait, parce que c'est si un homme avait demandé à prendre les deux filles, il est possible que le flic se soit opposé. Mais une femme qui dit, laissez-moi vos deux fillettes, vous les reprendrez quand vous rentrerez ce soir. Il y avait des actions spécifiques des femmes qui pouvaient être faites que par des femmes. Et moi, j'ai toujours essayé de jouer, femme de 28 puis de 30 ans dans cette guerre, de jouer des arguments féminins, c'est-à-dire de un peu un sourire, un peu la séduction, et puis les arguments de femmes. Et un argument qu'un homme ne peut pas employer, c'est d'être enceinte. Alors, j'attends un enfant, et jamais un homme n'aurait pu organiser l'évasion que j'ai organisée, parce qu'elle partait d'un point de vue qui était d'une part un argument féminin. J'attends un enfant. Nous sommes dans une époque où les filles qui attendaient un enfant s'appellent des filles-mères et sont exclues de leur famille et de la société. sont des marginales, donc il faut que je me marie. Et ça, c'est un argument que pouvaient comprendre fort bien les policiers à qui j'avais affaire. D'autre part, c'est un argument juridique aussi, qui alors relève de l'intellectuel. La femme distinguée que j'étais, qui attendait un enfant, ne pouvait pas être fille-mère, et dans le droit français, on peut épouser quelqu'un la veille de sa mort. Ça s'appelle le mariage in extremis.
Vous avez un souvenir particulier, par exemple, aussi de cette jonglerie incroyable que vous deviez mener, parce que bon, vous étiez engagée dans la résistance, mais vous travailliez, vous étiez enseignante, vous aviez un enfant déjà qui avait 2 ans, je crois, non ? Et ça, vous deviez mener tout ça de front, hein, c'est une chose aussi assez incroyable, même de devoir à un moment donné décider de se séparer de son enfant, à la fois pour le mettre à l'abri, mais en même temps pour vous permettre vous aussi d'être plus engagée.
Oui, j'avais une triple vie. J'étais un professeur qui gagnait sa vie, et qui ne manquait jamais ses cours, et qui essayait de faire un enseignement conforme à ce que doit faire un professeur d'histoire, c'est-à-dire lutter contre l'abêtissement que nous imposait, qu'essayait de nous imposer le régime de Vichy. Deuxièmement, j'étais une épouse, mère de famille, avec une maison à tenir, une bonne à la maison, un petit garçon né en 41, et la promesse d'une autre naissance commençait au mois de mai 1943. Puis, ma troisième fonction, j'étais résistante. Mais ça permet peut-être de comprendre que la résistance n'est pas un emploi à plein temps. Parce qu'on n'est pas résistant du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. On couche avec l'homme qu'on aime. Et puis, on fait des courses pour ravitailler sa famille. Et puis, on prépare ses cours. Et puis, on va faire ses cours. Et on fait faire une promenade dans la campagne romaine autour de Lyon avec ses élèves. Parce que la résistance s'inclut dans une vie normale. Il faut bien comprendre que nous, résistants, on était illégaux. Mais nous nous considérions comme la société légitime. Et en tant que société légitime, on vivait comme une vraie société doit vivre, avec ses règles. Il faut travailler, il faut avoir un milieu social, il faut avoir des amis, et puis voilà. Puis à côté de ça, ben cette société légitime, elle n'est pas encore arrivée, donc il faut se battre pour qu'elle arrive.
Vous vous souvenez de déchirements entre tous ces engagements ? Est-ce que parfois c'était difficile de choisir, quand il fallait choisir ?
Non, j'ai pas eu de déchirement parce que ma vie était remarquablement organisée. Il faut dire que j'avais la chance, bon, je gagnais ma vie, j'avais une bonne à la maison et j'étais donc déjà un petit peu en dehors des grosses difficultés matérielles. Une famille à la campagne qui pouvait éventuellement me fournir un peu de ravitaillement supplémentaire et beaucoup d'amis, je savais qu'à la moindre difficulté, mon enfant était en sécurité. Et la preuve d'ailleurs, c'est que le jour où les Allemands ont découvert la maison d'enfants où mon petit garçon était caché, immédiatement, 4 membres de la résistance sont partis et sont arrivés 1 heure avant les Allemands pour récupérer le petit garçon. On vivait dans un tel climat de confiance entre nous, dans cette société illégitime, que tout était possible. En plus, mon statut de femme, de mère, le petit garçon Boubou, c'était un peu la mascotte des résistants. De mère, de foyer, j'avais un foyer. En plus, j'étais une universitaire, fait que j'étais super protégée. Tous mes camarades se seraient fait tuer pour moi. Je dois dire que moi, j'en aurais fait autant, mais ben, j'essayais que ça ne se fasse pas, évidemment.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire un peu le bilan de cet engagement au niveau des femmes ? On a malheureusement dans des événements plus récents de résistance constaté, que ce soit en Algérie, au Vietnam ou je ne sais, l'Iran, que les femmes, une fois l'événement grave passé, sont remisées dans leur statut habituel. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites qu'au contraire, pour les femmes françaises, ça a été le début de quelque chose, cet engagement dans la résistance ?
J'aimerais le dire, Nous avons eu les droits civiques au mois d'avril 1944. Nous avons donc voté les femmes à partir de 1945. Dans l'indifférence à peu près générale, parce que les hommes n'avaient pas voté depuis 1938, et que ceux qui avaient 20 ans en 1938 n'avaient jamais voté, et que les prisonniers de guerre, quand ils sont revenus, étaient aussi dans le cas de ne pas avoir voté depuis l'avant-guerre. Si bien que nous n'avons pas, moi je pense que les femmes en France n'ont pas bénéficié tout de suite après la guerre de l'extraordinaire engagement et de tous les sacrifices que les femmes ont fait pendant l'occupation. Parce que la France a repris des formes politiques traditionnelles, des partis traditionnels avec des chefs de parti où il y avait quasiment par héritage de père en fils le statut de député, le siège de maire. Et c'est les femmes qui ont vraiment activé la libération de la femme en France, ce sont mes filles, c'est-à-dire 1968. C'est 68, la révolte de ces filles de résistantes qui ont amené la libération de la femme. Bien sûr, j'ai signé avant les quelques femmes, qui, 150 à peu près, qui se prononçaient contre l'avortement, contre la liberté de conception. Mais on était minoritaire et on n'avait pas gagné un combat féministe. Nos filles l'ont gagné en 68, mais elles n'ont pas encore gagné le combat civique. On est en train d'essayer de le gagner, et même à mon âge, je m'implique là-dedans et je pense que c'est très important.
Vous l'aurez sûrement corrigé de vous-même, il est bien sûr évident que Lucie Aubrac n'a pas signé avec 105 autres femmes un texte contre l'avortement et contre la liberté de conception, comme il dit, mais bien au contraire pour l'avortement et pour la liberté de conception. Ces premières batailles féministes menées en France par les MLAC, je crois qu'il était tout à fait évident que c'était là sa pensée. Alors voilà cette rencontre comme ça sur les marches d'une église de Carrouges à Genève pour rencontrer Lucie Aubrac en direct pour qu'elle nous raconte un petit peu ce qu'était la vie des femmes pendant la résistance. Alors elle l'a raconté beaucoup plus longuement aux jeunes, aux collégiens du collège de Stal à Genève, ces jeunes de 18 ans qui préparent cette année leurs examens de maturité, qui sont en plein boom, mais qui ont eu envie de rencontrer cette femme, qui ont eu beaucoup de questions à lui poser par rapport et qui l'ont écouté pendant presque 50 minutes évoquer justement les femmes et la résistance. Alors c'est ce que nous entendrons dans quelques instants dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Misère et la ferveur du monde s'agrandent dans nos rues. Vous pointez sur nous vos polices, milices corrompues. Vous entrez la nuit dans nos chambres, vous fouillez nos chansons. Nous n'avons plus de compte à rendre, nos frères sont en prison. S'il nous faut crier aujourd'hui, c'est pas fini. Crève cette armée, mensonge couronné. Misère et la ferveur du monde, la fronde n'oublie plus. Subornés dans vos galères, nos frères les plus nus. On a passé les bruits du désespoir, c'est la brasse ou la vie. Plutôt se déchirer les nageoires que rester asservi. S'il nous faut crier aujourd'hui, c'est pas fini. crève cette armée qui ne fait que broyer. La ferveur du monde, la bande saute au ciel, finit d'invoquer la défense, le sens de votre miel n'échappe plus guère à personne, c'est contre nos maisons que vous dressez sans vergogne vos chiens et vos canons. Que crève cette armée.